Interview.
1. L'interview du jour.
C'était hier, c'était en 1986. Oui, j'étais jeune. Je traversais la France pour un entretien d'embauche à Marseille. Venant d'Arcachon, Marseille et tout le sud-est de la France à l'époque, c'était connu pour la peur de l'autre, le refus de l'étranger. Et là, pour l'entretien d'embauche, j'ai emprunté la chemise, la cravate et la veste de mon père. À midi, j'arrive à la gare Saint-Charles et je sors sur l'esplanade. La première fois. Celui qui a vécu cette première émotion de l'esplanade de la gare Saint-Charles connaît l'émotion de la vie. La puissance du nombril de la Méditerranée. Les murs éblouis de soleil, Notre-Dame de la Garde, la proximité de la mer. J'y suis. Je suis à la porte du Grand Sud. C'est 3 heures avant l'entretien. Alors je décide d'aller au buffet de la gare, aujourd'hui disparu. Et là, je danse entre les tables, heureux. Je danse et je fais sauter le sable du désert sous mes pas et dans ma tête. Premier moment dans le Grand Sud. Je prends un plateau avec une assiette de pâte à la bolognaise et une canette de jus d'orange. Oui, c'est pas terrible, je sais. Mais j'en étais là de ma vie. Je trouve une table, je pose mon cartable, je mets ma veste sur la chaise. Et immédiatement, je réalise que je n'ai pas le verre et les couverts. Un grand classique. Je me lève et je danse de nouveau entre les tables. Heureux, joyeux. Avec le verre et les couverts, je reviens vers ma table. Et je m'arrête devant la table, debout, sidéré. Là, devant mon plateau de pâte à la bolognaise, un homme est assis. Un homme grand à la peau noire. Un grand noir. Souriant, il m'accueille en hochant la tête et m'invite à m'asseoir en face de lui, à ma table. Il est paisible, tranquille, mais moi je boue à l'intérieur. Ah oui, c'est ça le problème de l'immigration alors. Marseille, 1986. À l'époque de « Touche pas à mon pote », il y a un noir qui touche à mes pattes. Ah, c'est fragile, les convictions. Je viens à peine d'arriver et un homme mange mes pattes. Je m'irrite, mais lui, il m'accueille. Thank you. ton âme. Est-ce qu'elle est arrivée, ton âme? De quoi il parle? Bonjour, j'arrive d'Arcachon pour un emploi. Oui, je vois. Tu as fait un grand trajet. Tu as bien fait de rester ici, à la gare, pour attendre ton âme. Il y a du bruit, j'entends à peine sa voix. Je comprends rien à ces mots-là. Ses yeux, ils étaient rieurs. Il me semblait alors comme un homme du désert.
Bonjour, ici Erdiwa. Et c'est l'heure de l'interview avec au studio Philémon Garcia. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philémon, vous êtes conteur et vous êtes ici pour nous annoncer la nuit du conte qui va se dérouler ce vendredi 23 mai de 20h à 1h. Ça sera au 355 avenue Rhin et Danube à Die. Et pour cela, plusieurs collectifs ou structures se sont associés. Le collectif des contents, dont vous faites partie, oui. Les contreuses du Diwa et Chansigne.
Alors, les contreuses du Diwa, c'est les contents, en fait. Voilà, on a fait un collectif de 5 conteurs du Diwa qu'on a créé en décembre. C'est pour ça qu'on était venu. Ça s'appelle Les Contents. Et en fait, dans ce collectif, il y a Ghislain Papin, moi, Jérémy Legland, Virginie Cointepas, qui fait aussi du yoga sur Die, et Léon Lecomte. Voilà. Donc nous sommes 5. Et en fait, on a l'idée de la première nuit du conte à Die. Et puis l'idée de renouveler l'opération les années suivantes, éventuellement, puis peut-être à une date plus chaude, on va dire. Mais voilà, donc on s'est construit sur cette base-là, quoi, en fait.
Vous étiez venu en décembre pour annoncer aussi un autre rendez-vous. Quel a été le bilan
Oui, on a fait deux soirées du collectif des contents et une à Andarta et une dans l'ancienne cave dont je ne me souviens pas le nom, dans les usines là-bas. Et donc voilà, on a eu deux belles soirées bien remplies de gens qu'on ne connaissait pas. Donc ça s'est bien passé. Et puis c'était un ballon d'essai en fait pour voir si le collectif pouvait faire une soirée, si on pouvait s'harmoniser. Et ça s'est bien passé.
Nous avons écouté en préambule le Buffet de la gare, ouais. Un extrait du moins, qu'on écoutera en finale à la fin aussi. Mm-hmm. C'est comme une œuvre qui dure 9 minutes, donc on a écouté la moitié. C'est un travail effectué avec une musicienne.
Avec une musicienne qui me suit depuis plusieurs années, depuis 2017. Faletta, elle s'appelle. Et donc, on a plusieurs spectacles avec elle. Mais là, on a fait ce conte pour participer à un projet qui est national et qui est relayé par l'UNESCO. Un projet qui tend à parler d'un personnage qui s'appelle Yem. Et chacun va chercher son Yem dans sa tête, c'est-à-dire un personnage aimant, bienveillant, et qui prend un peu le contre-pied de tous ces blocages à notre humanité apaisée, quoi. Et donc voilà, j'ai été chercher dans ma mémoire un souvenir réel. Cette histoire raconte une histoire vraie. C'est ma première arrivée à Marseille quand je cherchais du boulot étant jeune. Et voilà, il y avait cette situation avec un grand monsieur qui est encore dans mon âme. Voilà.
Ce titre, Le Buffet de la Gare, c'est en quelque sorte un carrefour.
Ben c'est la gare de Marseille. Il y a 40 ans, il y avait un buffet de la gare en sous-sol. Parce que, je ne sais pas depuis quand ils ont disparu, les buffets de la gare, depuis quand ils ont été privatisés, mais on avait des vrais buffets de la gare gérés par des gens de la SNCF. Et on parlait même d'assiettes SNCF à l'époque. Mais en fait, c'était des vrais services publics, quoi, en fait. Et à Marseille, il y avait ça. Et pour moi, c'est un souvenir parce que j'étais jeune et je n'avais pas les moyens d'aller chercher des restaurants dans le centre de Marseille, alors que c'était possible. Mais donc, voilà, je me suis réfugié au buffet de la gare et il m'est arrivé cette histoire qui est racontée dans le conte.
Je me souviens aussi, ce buffet de la gare, on pouvait en trouver dans toutes les gares de ville, hein, principalement.
Ouais, ouais.
Et ça permettait vraiment d'attendre, de prendre le temps aussi de se préparer.
Oui, c'est ça. Et en fait, moi, comme les services publics se sont étiolés, donc c'est un des premiers services qui s'est séparé d'une gare. Mais en fait, moi, à un moment, quand je faisais beaucoup de nomadisme, ben, j'avais noté des bons buffets de la gare en France. Celui de Marmande, où on mangeait du bon cassoulet, était pas mal quand même. Donc voilà, donc j'avais dans ma tête, j'avais noté tous les buffets de la gare que j'avais plaisir à visiter, quoi.
Ça a dû être supprimé certainement pour améliorer la qualité des services. Est-ce que ces services, on les retrouve aujourd'hui ?
Ben maintenant, les gares, elles n'ont plus trop de services, en fait. Hein. Et quand elle est ouverte comme celle de Die, c'est un trésor, quoi, en fait. Dans une ville, comme Die, de 5000 habitants, on a une gare qui est ouverte la plupart du temps. Donc ça, c'est précieux, parce que quand je fais la Creuse, la Nièvre et tous ces départements du centre de la France, je n'ai pas ça, quoi, en fait.
C'est en quelque sorte une déshumanisation,
voilà,
hein, de ce
ça.
Lieu
c'est ça.
Qui permettait justement des rencontres.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, cette Nuit du Conte, co-organisée, permettra d'entendre de nombreux conteurs et auteurs aussi, certainement.
Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je crée mes comptes. Et puis, on parlait tout à l'heure de qui organise. Donc, il y a le collectif des contents. Et Chansigne participe, l'association Chansigne, qui avait fait, il y a 2 ans, les rencontres hommage à Maurice Benin, qui était un chanteur ami, qui a fait 45 disques et tout. Donc,
qui est venu ici.
Voilà, sûrement, oui, qui est venu chez vous, sûrement, parce que c'était un grand chanteur. Et donc, il y aura dans la soirée, à mi-temps de la soirée, il y aura un chanteur qui viendra chanter 3 chansons de Maurice Benin. Donc, voilà, en milieu, vers 10h, 10h30, quoi.
Alors, le morceau qu'on a écouté, le buffet de la gare, c'est un témoignage, comme vous dites, un souvenir. C'est la plupart de ce qui sera proposé, c'est un peu aussi dans cette respiration de ce qui nous entoure et l'inspiration aussi de ce qui nous échappe.
Ben en fait, quand on fait une soirée, une grande soirée à 50 heures, chacun apporte son univers. Donc moi, j'aurai des contes effectivement qui parle de moi, mais en fait, avec la prétention de parler de l'universel. Mais en fait, moi, je pars beaucoup de moi. Même dans des contes merveilleux, je peux aller chercher quelque chose qui m'est arrivé. Et bon, les amis vont avoir chacun... Alors, tel va apporter des contes irlandais, tel va apporter des contes italiens. Enfin, chacun va avoir son univers à partager. Et c'est un peu ça, le conte, en fait. Le conte, c'est apporter cette humanité soit dans des choses très cadrées qui viennent de loin, qui viennent de notre enfance, qui existent depuis 400, 500 ans, qui ont été écrits soit par les frères Grimm ou par des auteurs qui, à un moment, ont écrit les contes. Donc, moi, je ne suis pas vraiment dans l'écrit. Voilà, je suis très oral. Donc, j'ai une mémoire orale et je n'écris pas les contes. Et donc, chacun a son chemin pour arriver à partager son humanité, quoi, en fait.
Vous êtes tout de même auteur.
Oui.
Oui. Chansigne, on peut en parler un peu plus longuement ?
Oui, alors Chansigne, c'est l'association qui protège et entoure l'œuvre de Maurice Benin, en fait. Par exemple, le fils de Maurice Benin... continue à faire des spectacles, chanter pour demain. continue à faire des spectacles avec l'œuvre de son père. Il est avec une autre chanteuse, Anne-Lise. Et donc voilà, on essaie d'entourer ça, en fait, de permettre que ça se fasse. Là, on va aller à Toulouse, vers Toulouse, pour le prochain concert de ce duo. Là. Et donc, on a fait sortir un coffret de toutes les chansons de Maurice. Donc, 5 disques, 40 chansons. Donc, ce n'est pas toutes les chansons, mais c'est ce qu'on a pu ressortir, un florilège.
Donc, justement, sur ces chansons de Maurice Benin, est-ce qu'elles tiennent toujours dans notre actualité?
Ah ben, oui, ben, c'est une poésie vivante, en fait. Hein. Moi, j'avoue que je suis devenu conteur grâce à Maurice Benin. Donc, il y avait un autre chanteur, Julos Bocarn, le chanteur belge que je connaissais aussi quand j'étais petit. Donc, à 12 ans, j'ai entendu ses voix uniques. Et puis, je suis devenu conteur grâce à eux, en fait. Cette parole, cette poésie du quotidien, ces mots aussi d'humanité, parce que c'était aussi ça, en fait. Le Maurice, il était très revendicatif dans les premières années, et puis après, revendicatif d'une autre manière par la suite, notamment dans les dernières années, où il revendiquait un supplément d'âme, quoi. Donc, à apporter à cette société une humanité qui console, quoi, et pas qui revendique seulement, quoi.
Avec une ironie?
Dans les dernières années, non. Il n'y avait plus trop l'ironie. Parce que les dernières années sont marquées par le problème des migrants, le réchauffement climatique, par des sujets comme ça qui s'agit de prendre avec à la fois poésie, mais à la fois besoin d'humanité, de savoir qu'on est sur le bateau, quoi, tous ensemble.
Cette inquiétude, il vous l'a transmise aussi
Ah ben oui, il m'a transmis beaucoup de choses, ça c'est sûr. Oui, il m'a transmis beaucoup de choses. Et les mots, alors parfois à la fin d'un spectacle de conte, on me dit, quelqu'un vient me voir et me dit, dans vos contes, j'ai senti quelque chose de Maurice Benin. Alors ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, quand quelqu'un reconnaît un peu les mots, et quand je raconte qu'il y a la femme de Maurice qui habite toujours à Die, et qu'elle est dans la salle, je sais qu'elle reconnaît les mots qui sont pour hommage, en fait. D'habitude, je ne le dis pas, en fait, ça passe comme ça, mais elle, je sais qu'elle reconnaît les mots.
Voilà. Et vous-même, Philémon, est-ce que vous transmettez votre art?
Alors, je ne fais pas de formation.
Non, mais sans une formation, la transmission par relation, tout simplement.
Oui, ben ça, j'aime bien faire. J'aime bien... Je propose régulièrement des après-midi d'ateliers pour faire découvrir le conte. En tous les cas, le conte, comme moi, je le pratique. Voilà, donc je le faisais quand j'habitais à Marseille. Et là, ponctuellement, je le fais sur Die, quoi. Avec trajet...
Spectacle.
Voilà, il y a... Ouais.
Tous les contes qui seront proposés, est-ce que vous avez... Vous dites que chacun amène son univers, mais est-ce qu'il y a une idée préconçue qui relie chacun de vous?
Non, on n'a pas de thème commun.
Non.
Donc, on n'a pas de thème commun, mais je sais que... Le thème qui serait commun, c'est quand même la joie, en fait. La joie de faire quelque chose ensemble. Voilà, parce que c'est pas courant dans les métiers... artistique, on va dire, de dire ben, on a envie de laisser de compter notre chemin tracé de conteur ou de, voilà, et puis de dire ben, on va faire quelque chose ensemble qui est une soirée atypique. Alors, le jour où on réveillerait les oiseaux ensemble, moi, je serais content, quoi.
Ça, c'est un projet que vous proposerez dans les temps qui viennent.
Oui.
Et on va revenir sur celui du 23 mai, donc qui commence à 20h jusqu'à 1h. Ça se passe chez une personne, chez un particulier. Donc,
oui.
Et il y a donc cette possibilité d'amener du matelas, des duvets, un pique-nique aussi, ou des boissons chaudes.
C'est même conseillé de, oui. d'être au chaud quand même.
Et est-ce que aussi cette soirée permet d'apprécier le conte au-delà de l'ouïe et du regard, mais peut-être aussi du toucher.
De la situation, des sens, parce qu'on est dans un beau jardin avec des cèdres. Il y a le mets rose qui coule à côté. Donc on va être dans une belle situation. Oui, la dame qui nous accueille a un vraiment beau jardin. Donc, et on va être dans une belle situation de pouvoir toucher l'herbe en même temps qu'on entend les histoires, de pouvoir sentir la nature qui s'endort, en fait. Et voilà, donc il y a un peu tout ça, quoi.
Pour vous, la nuit du conte, il existe un renouveau de l'intérêt du public sur le Diwa ?
Ben, sur le Diwa, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait plusieurs années que je propose des contes, notamment souvent à Ondarta. Donc, j'ai fait pas mal de soirées. Ce que je sais, c'est que, et d'autres personnes extérieures me l'ont dit, c'est qu'il y a une attention très intense à dit. Quand un artiste fait une proposition, il y a une attention très intense. Je vois certains chanteurs qui passent en Darta, d'autres conteurs me l'ont dit, que c'était frappant, quoi, en fait. Et moi j'aime beaucoup, en fait, le public d'Andarta, notamment, j'aime beaucoup parce que c'est un public de briques et de broc qui vient de différentes origines et qui en fait, tout d'un coup, ça se remplit à 8 heures pour écouter un conte, et toujours dans un grand respect, dans un grand, une grande bienveillance pour la parole et tout. Donc, effectivement, il y a ça. Mais je pense qu'à dit, on a un peu ça pour tout, quoi, en fait, il me semble.
Le public qui vient vous écouter est de toute génération ?
Oui, de toute génération. Oui, de toute façon, le conte touche tout le monde. Alors, il y a un trou d'air quand même dans le public du conte. C'est, on va dire, c'est les adolescents jusqu'à l'âge de jeune adulte. Donc là, il y a un trou d'air, mais c'est national. Et puis, globalement, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc les hommes sont moins ouverts aux propositions sensibles. Voilà. Donc voilà, les deux trous d'air du public du conte, c'est ça en fait.
Ils sont plus timides. Et justement, vous parliez du national. Qu'en est-il de cette profession de conteur ? Est-ce qu'il y a certainement des difficultés pour en vivre, mais est-ce qu'il y a quand même un soutien qui s'amplifie peut-être ?
Ben, en fait, il y a beaucoup de conteurs et dans notre collectif des contents, il y a une jeune conteuse, Léone Lecomte, que c'est admirable de jeune conteur jeune de se dévoiler dans ce métier-là. Elle a fait une longue formation pour devenir conteuse et c'est très très admirable en fait. Mais dans toute la France, il y a des conteurs en fait. Même dans des lieux, quand je vais dans le Morvan, je vois qu'il y a 5-6 conteurs qui me retrouvent quelque part. Là, je vais aller dans la Creuse, dans l'Indre ou la Creuse, en fait, c'est à la limite des deux. Donc là aussi, c'est un repère de conteurs. Donc il y a un peu partout des gens qui donnent de l'humanité, en fait. Et alors qu'avant, les conteurs, c'était les commerçants nomades, ceux qui allaient d'une montagne à l'autre. C'était eux qui racontaient des histoires. Ou alors, c'était les femmes. Voilà. Au Moyen-Âge, c'était beaucoup les femmes qui ont toujours été porteuses d'une mémoire. Donc, la mémoire de la connaissance des plantes, mémoire de ce qui soigne, de ce qui réconforte, et mémoire forcément du conte.
Et qui n'était pas forcément bien vu.
Et ce qui n'était pas bien vu, parce que c'est comme ça qu'on devient sorcière. Donc, en fait, c'est cette histoire de l'humanité sensible comme ça serait intéressante S'il y a un livre qui parle de ça, je vais tout de suite dessus parce que c'est intéressant qu'une pratique très féminine se soit généralisée à un moment. Là, depuis les années 70, il y a eu ce qu'on appelle le renouveau du conte en France. On est un pays très typique quand même par rapport à ça. Parce que du coup, les conteurs se sont professionnalisés. Il y a aussi beaucoup de conteurs amateurs. Et en fait, les pays voisins nous envient en fait ce modèle. Il y a la Belgique qui est sur ce même modèle. Mais en Italie, par exemple, le conteur professionnel, ça n'existe pas, quoi. Ce métier de conteur n'existe pas. Donc en France, effectivement, ça a été développé. Alors, il y a très peu de conteurs qui s'achètent une piscine, en fait. Hein. Donc, on est un peu dans des ressources pas très grandes, quand même. Mais voilà, mais il y a quelque chose qui porte. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, chacun le fait à son rythme. Il y a des conteurs qui font 100, 200 dates par an, puis d'autres qui le font. Qui en font beaucoup moins. Moi, j'en fais beaucoup moins. Maintenant que depuis 2 ans, j'ai beaucoup ralenti le rythme, mais mes amis d'Iwa me disent que je suis toujours sur la route, quoi. Donc voilà.
Je reviens un peu sur ce soutien. Quel est-il ? Il y a ce statut de conteur qui permet d'être reconnu en tant qu'intermittent du spectacle, voilà, j'imagine. Mais les structures qui vous proposent en diffusion, est-ce qu'elles sont suffisamment nombreuses, ou alors le conteur, c'est un métier aussi qui permet peut-être de s'adresser à un public plus restreint, sur des lieux oui. plutôt genre café, où le village se réunit parfois même.
Oui, oui. Ben, en fait, moi je l'ai fait dans le Vercors, Saint-Julien-en-Quin, enfin dans des petits lieux où il y a 15 personnes qui viennent. Donc je l'ai fait parce que ça m'a permis aussi de découvrir de toutes les différentes vallées autour de nous, quoi, en fait. J'ai l'impression de faire comme notre député qui va dans le moindre recoin des campagnes autour du Vercors. Donc effectivement, moi j'aime bien ça, de faire des petits lieux, des tout petits lieux. Ils me disent, bon, on sera qu'une dizaine. Ben, en fait, on n'est qu'une dizaine. Moi, je raconte face à un mur, hein, de toute façon. Donc, s'il y a une dizaine d'humains qui sont là, qui sont réceptifs, qui accueillent avec bienveillance la parole et tout, ben c'est génial, en fait.
Le conte aussi peut être un prétexte pour échanger également avec l'auditoire, ou peut-être de vous enrichir d'histoires même.
Oui, en fait, c'est ça. Ben c'est Henri Gougaud disait que c'était l'art de la relation, donc qui relie les humains, quoi, en fait. Et effectivement, moi je fais beaucoup de petits lieux parce que j'aime bien raconter chez les gens, par exemple. Je raconte dans un salon où on invite 15-20 personnes qui avec une participation au chapeau, mais pour que je vive, quand même. Mais en fait, c'est les moments les plus intenses au niveau du conte, parce que c'est les moments où on rencontre les gens, et puis ils peuvent dire ce qui les a émus, ce qui les a gênés, ce qui les a bouleversés. Donc ça peut se dire, quoi. Dans une salle de spectacle, c'est moins facile, parce que tout le monde se disperse vite. Donc j'aime bien quand il y a un petit repas partagé, et même le mieux, c'est quand je reste au petit déjeuner le lendemain matin, où il peut encore y avoir des histoires.
Est-ce qu'il y a des préférences au niveau des saisons pour le conte, ou alors c'est possible toute l'année ?
Ben en fait, en printemps, été, on peut raconter dehors, donc en lien avec la nature, recommence les balades contées. Donc ça, j'ai pas mal fait ça. Mais on dit que c'est aussi l'éveiller auprès de la cheminée, c'est bien aussi, quoi, en fait. Donc l'hiver, c'est bien aussi. Moi, j'ai fait plusieurs soirées, j'ai fait plusieurs nuits du conte dans le Cantal. Et ils sont, voilà, une centaine de personnes qui viennent sur un champ de vaches qui vient de s'asseoir contre les vaches. C'était des grands moments. Et puis, ils avaient tous un souvenir de ce que leur disait leur grand-père, que du temps de son grand-père à lui, il y avait des conteurs qui venaient dans la cheminée, debout. Dans la cheminée, on appelait ça le cantou à l'époque. Et dans la cheminée, il racontait le monsieur. Et que toute l'assemblée était là, avec le feu qui était là, proche. Et moi, les soirées où j'ai fait... J'ai raconté assis sur le bord de la cheminée, ben c'était un régal parce que c'est quelque chose d'ancien qui revient, un archaïsme lointain quoi, en fait, qui nous habite.
Et justement, est-ce que le crépitement des flammes donne le rythme ?
Je ne sais pas s'il donne le rythme. C'est un faux rythme alors.
Abstrait. Oui. Il y aura donc cette possibilité d'assister à cette soirée par le biais de réservations, semble-t-il, voilà. Peut-être aussi, parce que voilà. Une limitation de place.
On part sur une centaine, ça peut aller jusqu'à 150, mais après le jardin de notre Françoise accueillante, le jardin sera plein, quoi. Donc le mieux, c'est de réserver, ou alors ceux qui sont voisins, c'est de venir en voisin. Donc là, la période d'affichage va se faire aujourd'hui, demain. Voilà. On vous met les premières affiches, où les gens auront toutes les informations et un numéro de téléphone voilà, que vous pouvez donner.
C'est le 06 73 17 90 35.
Où c'est conseillé de laisser un message, voilà.
Il y aura donc cette possibilité de se tenir au chaud hein, pendant cette soirée, puisque ça sera dans un jardin. Il y aura une buvette et une petite restauration sur place, voilà. Proposée par vous-même.
Oui, oui. On aura quelques gâteaux, mais ceux qui veulent du lourd ou du salé ou de la pizza, ils peuvent aller au camping d'en face de la route de Romeyer. Au camping, il y a des pizzas, il y a des trucs comme ça, donc voilà.
Le collectif des contents et conteureuses, c'est une structure, vous avez cité des noms hein, en début oui. d'émission, mais ça regroupe combien de personnes ?
Cinq, on est cinq.
Cinq. Oui.
On est cinq. Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura plus, parce que à Luc-en-Dioua, il y a des gens qui comptent, à Recoubeau, donc ils ont été informés de cette nuit du conte et de... Donc, c'est une question de disponibilité. Bon, nous, on s'est rendu disponible pour créer ces petits événements ensemble. Mais peut-être que si on refait la nuit du conte l'an prochain, peut-être qu'on sera un peu plus nombreux, quoi, par exemple.
Voilà. Nous allons nous quitter sur cette deuxième partie de l'extrait de donc, le buffet de la gare. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte que vous avez envie de partager ?
Ben en fait, cette histoire, c'est une histoire que j'ai mis 15 ans à la raconter quand même. Donc il faudra revenir un peu en arrière pour pouvoir faire le lien. Donc j'ai mis 15 ans à la raconter, à oser la raconter, parce que c'est aussi que ça se moque de moi. Donc je ris de moi, en fait. Je me moque de moi, de ce que j'ai mis dans cette rencontre d'un personnage dont je croyais qu'il mangeait mes pâtes. Et avec tout ce que je portais de ce qu'à l'extérieur de la France, on pense d'une ville comme Marseille, tout ce que je portais, tout ce que mes parents m'avaient dit, à Marseille, les gens sont comme ci, comme ça... Et que j'entendais bien que 1986, c'est une date révélatrice, parce que 3 mois plus tôt, il y a les législatives et 36 élus Front National à l'Assemblée nationale française, quand même. Donc, c'était la première fois. Donc, et je suis dans tout ça, dans à la fois l'actualité qui résonne dans ma tête, à la fois mes convictions personnelles d'ouverture aux autres, et puis ce que m'avaient dit ma famille, mes parents, qui avaient peur que j'aille à Marseille. Et donc, et je suis devant ce mur que n'est pas celui qui partage, celui qu'on croit. Quoi.
Le conteur, quelle mission aurait-il, selon vous ? Et d'ailleurs, juste une question aussi dans celle-là, c'est est-ce que le conte a plus de d'audition en milieu rural que dans les villes?
Dans les villes, moi je connais Marseille et j'ai compté pas mal à Lyon aussi. Et à Marseille, il y a un vrai public de compte. C'est quand même une grande ville où les gens ont un besoin de recréer des petits noyaux, en fait. Donc là, en ce moment, j'ai un ami qui fait un festival dans Marseille de poésie et de conte. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans notre ville. Puis, bon, peut-être que les Méditerranéens sont des parleurs, qu'en fait, avec les mains, comme je fais là. Donc, et à la campagne, dans le milieu rural, ben en fait, y a une telle carence d'humanité par rapport au lointain de tout, de tous les services, des gens qui sont éparpillés sur le territoire, que quand même, je vois que dans une ville comme dit, ça résonne quand même, le fait de se regrouper pour entendre quelque chose. Et les rencontres de l'écologie, ça parle un peu de ça quand même. Où les gens se rassemblent pour entendre une conférence aussi nombreux, alors qu'au départ, ils ne connaissent rien au sujet, puis ils y viennent pour entendre cette parole-là.
Philémon Garcia, nous allons nous quitter donc avec la suite du Buffet de la Gare. Donc, ce rendez-vous du 23 mai pour la Nuit du Conte. Et on peut indiquer précisément vers quel endroit c'est?
Alors, 355 avenue Rhin et Danube, c'est juste en face du camping de Romeyer qui est au début de la route de Romeyer. Donc voilà, c'est juste en face du camping.
Eh bien, bonne soirée.
Bonne soirée.
Est-ce qu'elle est arrivée, ton âme? De quoi il parle? Bonjour, j'arrive d'Arcachon pour un emploi. Oui, je vois. Tu as fait un grand trajet. Tu as bien fait de rester ici, à la gare, pour attendre ton âme. Il y a du bruit, j'entends à peine sa voix. Je comprends rien à ces mots-là. Ses yeux, ils étaient rieurs. Il me semblait alors comme un homme du désert. Il lui manque juste la tunique bleue du Touareg. Et puis quand il prenait des pattes, j'avais l'impression qu'il égrenait le sable du désert entre ses doigts. Et surtout, il tournait le plateau de l'un à l'autre. Et même, il nous servait du jus d'orange, de mon jus d'orange. De sa voix grave, il m'a dit « Je suis un grain de sable et nous sommes dans le désert de nos âmes. » Ben là, j'ai rien compris. On n'était pas reliés. Mais je sais maintenant que c'était Yem, je le sais maintenant. Je l'ai rencontré sous d'autres formes après. Lui, il semblait apprécier le moment, mon arrivée, le repas partagé, la bolognaise, tout ça, il a aimé. En souriant, il a sorti une bougie et des allumettes. Quand ton âme te cherche, ou que tu ne la sens pas, allume une bougie sur ton chemin. Et il a allumé la bougie devant lui. Et dans la vie, dans ton cœur, garde toujours la lampe allumée. Repas terminé, il m'a souri. Puis, il a rassemblé les éléments sur le plateau. Il s'est levé pour le porter aux objets sales. Je l'ai suivi du regard avec sa démarche légère et décidée. Il a déposé le plateau avec gloire et précision il m'a salué. C'est à ce moment-là qu'un nuage est venu tout autour de moi. Un nuage d'orgueil. Vous savez, comme quand on est tellement fier de ce qu'on fait, de faire le bien, d'être bon. Et dans ce nuage d'orgueil, moi, j'ai balayé des yeux la salle pour voir si des gens avaient vu la scène du gars de l'Atlantique qui a partagé un repas avec un étranger. Peut-être qu'il y aurait un débat, quoi. Mais non, ça n'a intéressé personne. Tout le monde s'en fichait. Le nuage d'orgueil s'est dissipé. J'ai regardé la chaise où l'homme était assis. Et derrière cette chaise, il y avait une table avec un plateau de pâtes à la bolognaise et une canette de jus d'orange, une chaise avec ma veste et mon cartable. Oh, l'erreur! Ben, j'ai mangé mon repas et j'ai bu. En pensant à cet homme, aujourd'hui, je sais bien que c'était Yem. Ces mots, ils ont voyagé dans mon esprit. Yem a allumé une lumière dans mon âme.